1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. Je lis. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faux, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le chrétien espère beaucoup de choses dans la vie, enfin je pense que vous avez beaucoup d'espérance, autres forcément, mais c'est un droit quelque part d'espérer dans la vie, c'est même conseillé d'espérer, c'est quand même mieux que de désespérer on va dire quelque part, mais des fois en tant que chrétien on peut paraître un peu fou de croire que Dieu existe par exemple, croire que la vie éternelle c'est une réalité, croire qu'un jour il y aura une nouvelle terre, plus belle peut-être que celle que nous avons aujourd'hui, tout ça c'est fou quelque part. Mais je pense qu'on a besoin de renouveler notre espérance, surtout pour cette nouvelle année. Vous savez ce qui va arriver ? Moi non plus. Alors, vaut mieux peut-être, c'est peut-être pas plus mal. Mais on a besoin des fois de nous souvenir de cette espérance et de la renouveler, de la faire réchauffer dans notre cœur. Je regardais des citations un peu du monde par rapport à l'espérance qu'ils pensent. Aristote, par exemple, disait « L'espérance est le songe d'un homme éveillé ». Je vous laisse un peu réfléchir. Quelqu'un d'autre, un Italien, disait « Il faut espérer puisqu'il faut vivre ». C'est un peu fataliste, quelque part. Un certain duc de Lévis disait « La crainte gouverne le monde et l'espérance le console ». Un autre encore disait « L'espérance est un emprunt fait au bonheur ». Un certain Diogène disait « L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme ». C'est pas vrai, parce qu'elle va se poursuivre, pour nous en tout cas. Enfin, elle va se transformer. Et Blaise Pascal, que j'aime quand même plus, « Il n'y a de bien en cette vie que l'espérance d'une autre vie ». Blaise Pascal était chrétien, donc on voit tout de suite la différence. Donc l'espérance, que dit la Bible sur l'espérance? On nous demande surtout d'espérer en l'éternel. Si on cherche une définition de l'espérance dans la Bible, alors c'est un mot qui est composé de deux mots, « kata », qui veut dire en grec « la tête », et puis « dokeo », qui veut dire le sens de « veiller ». En fait, il faudrait, pour traduire l'espérance, dire que c'est une ferme attente, une impatience même, quelque part. On est impatient. On pourrait dire que c'est comme si on tendait la tête pour épier. Ça vous arrive des fois, vous entendez un bruit dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous attendez peut-être des amis ou quelque chose et on épie jusqu'au moment où ça va arriver. On s'attend à voir quelque chose arriver. On pourrait aussi dire que c'est un peu détourner la tête pour regarder. Je ne sais pas si de temps en temps vous ne regardez pas par la fenêtre, quand vous êtes tranquille et vous regardez au ciel, des fois que Jésus reviendrait. Enfin, normalement, l'église est enlevée avant, mais bon, c'est ça quelque part. On attend quelque chose et on est en action quelque part aussi, c'est ce qu'on pourrait dire. L'espérance, globalement, c'est le propre de l'homme. C'est même, je l'ai dit avant, c'est nécessaire, presque en psychiatrie quelque part, dans notre psychologie interne, dans notre équilibre, parce que si nous n'avons pas d'espoir, ben souvent nous partons dans la dépression. Les gens qui n'ont plus d'espoir se dépriment tout simplement. Et on voit ce monde justement qui déprime parce qu'il n'a aucun espoir. Ou alors, il essaie de le trouver dans certaines choses, mais ça n'aide pas beaucoup. L'espérance console, elle bannit la crainte, même si parfois l'objet de cette espérance est fausse. Des gens du monde, des fois, espèrent dans l'argent, ils vont gagner au loto. Ils espèrent qu'ils vont gagner, ça leur donne un peu de vie, mais bon, ils se rendent très vite compte qu'ils vont perdre. Donc c'est bien dommage, mais c'est un faux espoir. Mais le monde a aussi ses espoirs, hélas. Mais si tous espèrent peut-être, la question que nous, on peut se poser, c'est en quoi nous plaçons notre espérance ou en qui nous plaçons notre espérance ? Quel est l'objet de notre espérance aujourd'hui? Est-ce que j'espère dans l'argent, dans le travail, peut-être dans une idole, dans une religion, dans une philosophie? Il y a tellement d'espérance dans ce monde. En quoi je place mon espérance? La Bible dit qu'il y a beaucoup d'espérance, mais que beaucoup d'espérance sont tout simplement vaines. si vous aimez, vous espérez dans l'argent, ça va marcher un temps, mais pas toute la vie. Regardez les gilets jaunes, ils espèrent, mais ils vont espérer longtemps, je crois, hélas. Mais tout ça, c'est, comme dit la Bible, c'est de la vanité, c'est de l'illusion. La vraie espérance, selon une définition, pour dire, biblique, c'est un acte personnel. C'est évidemment croire en Jésus-Christ. C'est la seule et vraie espérance que ce monde peut bien avoir. Il n'y a qu'un seul objet, d'où découlent peut-être beaucoup d'autres choses. Espérer, c'est placer sa confiance en Jésus-Christ. Ésaïe disait autrefois, en Ésaïe 8, 17, « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. » Ésaïe, il a été souvent malmené par le peuple, mais malgré tout cela, il plaçait sa confiance dans son Seigneur. Mais c'était un acte personnel, c'est un effort qu'il faisait aussi. Hein. Ça ne vous tombe pas sur le coin de la figure d'espérer. Il faut faire l'effort de s'en souvenir aussi. Et notre espérance, on le sait, va à contresens du monde. Celle du monde n'est pas vraiment garantie parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Par contre, nous, notre espérance en Jésus-Christ, on sait qu'elle est vraie, elle est démontrée déjà et elle est absolument garantie. Vous ne serez pas trompé au bout. Et ça, ça fait notre joie, non ? J'espère. Quand on s'intéresse très rapidement dans l'espérance dans l'Ancien Testament, par exemple, il y aurait énormément de choses à dire, mais je n'ai pas le temps ce matin, le peuple juif se fondait son espérance sur les alliances qu'ils avaient reçues avec Dieu. Hein, et ils espéraient dans ces alliances que l'Éternel avait fait avec eux. Ils avaient reçu des promesses de la part de Dieu, et ils comptaient justement sur ces promesses de Dieu. Mais bien souvent, Dieu avait dit de faire certaines choses, et le peuple faisait le contraire. Et donc forcément, le Seigneur devait les reprendre. Ils espéraient encore dans le judaïsme, hein, mais espéraient à l'époque dans ce qui a été promis à Abraham, espérance d'un pays. Ils l'ont eu, mais pas en entier, parce que si vous étudiez l'Ancien Testament, Josué n'a pas conquis tout ce qui était promis. Hein, ça sera dans le millénium, tout cela. Ils espéraient dans la prospérité, dans la sécurité, etc. Ils avaient de l'espoir dans Dieu et dans les alliances qu'il avait fait avec eux. Normalement, pour le chrétien juif aujourd'hui, il a encore l'espoir, parce qu'il sait que le Messie un jour va régner sur la terre pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, Jésus va régner avec justice et perfection sur cette terre. Il espère aussi le règne glorieux, mais peut-être dans l'éternité, cette nouvelle alliance qui a démarré hein, déjà aujourd'hui, mais qui va se faire avec les Juifs quand Jésus va revenir. Il espère que les nations se convertissent. Il espère beaucoup de choses. Nous, qui sommes plutôt du Nouveau Testament, hein, notre espérance, c'est notre foi. On espère par la foi. Et Hébreux 11, 1 donne la définition de la foi. Il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qui peut me prouver que Jésus existe ?» Vous n'avez rien prouvé. Qu'est-ce que vous pouvez prouver que vous allez aller au ciel, si vous êtes sauvé, évidemment, une fois que vous êtes mort ? On ne peut pas le démontrer mathématiquement ou par la logique. Et c'est peut-être ce qui freine des fois le monde. Mais la foi le croit et elle le démontre. Que ces choses qui sont peut-être pas visibles sont bel et bien réelles. Nous le croyons, alors pas parce qu'on a envie de croire, mais parce que beaucoup de choses ont été prouvées bien avant. Jésus est bien venu sur cette terre, il est bien mort sur la croix, il est bien ressuscité, il y avait plus de 500 témoins, et aujourd'hui le Seigneur est aux manettes de ce monde, même si le monde fait un peu ce qu'il a envie. Mais on n'a pas besoin de le prouver mathématiquement ou par la logique, on croit ou on ne croit pas. Mais il faut croire, et c'est mieux. Donc cette espérance concerne, pour nous, en tant que chrétiens, le quotidien, parce que le Seigneur a fait plein de promesses pour nous chaque jour, et c'est bien de s'en souvenir, des promesses par rapport à notre vie spirituelle, par rapport au futur, par rapport à la terre, par rapport à un tas de domaines. Mais il faut s'en souvenir. Et par la foi, et la Bible nous dit dans Galates 5, 5, c'est avec l'aide aussi du Saint-Esprit que cette espérance est vivante, j'ai envie de dire, dans notre vie, et on espère aussi, comme dit Galates 5, la justice à venir de la part de Dieu. On est bien triste de voir le monde souvent injuste, comme disait tout à l'heure notre frère au travers du proverbe, hein, on n'a pas à réagir. À moi, la vengeance, dit le Seigneur, ce n'est pas à nous de régler tous ces problèmes, mais on se réjouit aussi qu'à la fin, la justice sera établie. Je préférais même dire que j'espère que ces gens-là vont se convertir avant que la justice va tomber. C'est peut-être même ce que le Seigneur voudrait, mais bon, pour la plupart, ils vont refuser évidemment de se convertir. Mais à la fin, mon espérance, c'est que Dieu aura le dernier mot. C'est chouette, j'ai plus besoin de m'énerver. plus d'ennemis, en fait, quelque part. Toujours cette espérance dans le Nouveau Testament concernant notre avenir. Alors, je ne sais pas si vous, vous êtes impatients. Les cadeaux, c'est ça? Non. Ça s'est passé déjà, peut-être pour l'année prochaine. De quoi vous êtes impatients? De manger, tout à l'heure? Vous êtes impatients, des fois, dans votre vie?
Impatient du Seigneur Jésus. On voudrait qu'il vienne tout de suite.
Pas tout de suite, laisse-moi terminer. Hein, on verra après. Enfin, s'il veut venir, il vient. Mais oui, mais le retour de Jésus-Christ, on en parle, on sait qu'il va venir, qu'il va régner, blablabla. Bla, bla, bla. Mais normalement, on devrait être impatient que ça se fasse. Pas dans le sens où on voudrait que ça soit réglé une fois pour toutes, parce que nous voulons que la plupart soient sauvés. Mais nous sommes impatients de voir Jésus-Christ enfin régner sur ce monde et de pouvoir dire à mon collègue, comme vous avez notre vin tout à l'heure, « T'as vu, Jésus, il existe vraiment. Maintenant, tu le vois. Tu ne peux plus rien dire. » Mais bon, beaucoup vont mourir ce jour-là, hélas. L'espérance nous rend heureux, parce qu'elle nous dit que nous ressusciterons un jour, comme Jésus est ressuscité. Nous retrouverons Jésus-Christ. Bonjour Jésus, comment ça va? J'irai voir Abraham pour parler un peu avec lui, Paul, etc. Nous serons avec tous ces gens-là. Et ça, ça nous rend heureux, non? Ah ouais, j'espère en tout cas. Puis on est excité aussi parce que une fois qu'on est ressuscité, on sera glorifié. Alors nous, pécheurs que nous sommes, c'est totalement immérité, mais le Seigneur se plaît à partager, comme dit la Bible, son héritage avec chacun d'entre nous. Quand vous lisez Apocalypse 20, 21, 22, quand vous voyez déjà la description de la beauté de ce qui attend l'éternité, on ne peut qu'être excité de voir tout ça, non? Je veux voir. Moi, j'aimerais déjà voir, mais bon, je ne suis pas passé de partir non plus, mais bon. Et puis, on est joyeux aussi parce qu'on va partager la présence de Jésus-Christ tous les jours, pendant toute l'éternité. Alors, il ne faut pas se dire qu'il faut se réjouir que pour l'avenir, parce que vous la partagez déjà aujourd'hui sur Terre. Et ça, on l'oublie bien souvent. Je peux partager cette présence du Seigneur avec moi tous les jours. Et ça, ça me rend joyeux quand je pars au travail, dans le RER, avec mon patron qui me gonfle, avec mes collègues qui sont difficiles, ma famille qui est peut-être des fois pénible. Mais tout ça, ça me rend heureux parce que moi, j'ai une espérance qui est vivante et bien réelle. Puis encore, dans le Nouveau Testament, l'espérance pour le croyant par rapport au monde, notre espérance, c'est que nous savons que Jésus aura la victoire finale. Le diable semble avoir des victoires dans ce monde, hélas, quand on voit les attentats, quand on voit un tas de choses, mais il a déjà perdu, et le sait certainement, mais Jésus-Christ a la victoire totale sur ses ennemis, et comme dit dans Hébreu, il a cette victoire où tout le monde va fléchir à un moment le genou devant Jésus-Christ. Nous, on le fera volontairement, parce que nous acceptons qu'il soit notre roi. Mais beaucoup de gens vont être forcés de le faire, et ça va être très difficile pour eux. Surtout quand on a dit « Dieu n'existe pas », mais là, qu'est-ce que tu veux faire quand tu l'as en face de toi? Tu ne peux plus rien faire que dire que c'est vrai. Espérant aussi dans le jugement dernier, on n'est pas heureux que ça arrive, mais nous, évidemment, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes sauvés, mais le monde sera jugé, le diable sera jugé. Tous ceux qui auront fait du tort, qui se seront opposés à Dieu, seront jugés une fois pour toutes et on n'en parlera plus jamais. Nous prions pour que les hommes se convertissent. Le diable, c'est trop tard pour lui, mais les hommes peuvent encore changer d'attitude et on doit prier pour cela. Mais à un moment, quand ça sera le moment de Dieu, tout ça, c'est fini et ça sera trop tard pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. On se réjouit aussi en espérance pour les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le paradis, où la justice va habiter. Il n'y aura plus jamais de mal, plus de maladie, plus de souffrance. On sera bien, non? On sera vraiment bien. Plus la mort, effectivement. Voilà notre espérance, et ça devrait stimuler nos journées, notre foi, certainement. Oui, on ne peut pas y penser tous les jours, on est bien d'accord. Mais de temps en temps, pas forcément qu'au début de l'année, mais peut-être de temps en temps s'arrêter et puis se dire quand même, oui, ben, la vie, elle n'est pas facile, oui, ok, d'accord. Mais quand même, par rapport à ce que je vis et par rapport à ce qui m'attend, ouais, allez, ça donne la pêche et puis on repart. Hein. Et il faut regarder ces choses-là parce que le Seigneur nous les a promises. Ce n'est pas pour simplement les poser quelque part et le regarder de temps en temps. C'est pour en profiter. C'est fait pour nous exciter, pour nous rendre impatients. C'est fait pour nous faire vivre tout simplement la paix et la joie du Seigneur. L'espérance du croyant le fait vivre dans la joie et aussi dans la confiance en son Seigneur. Deuxième chose qu'on peut apprendre dans la Bible par rapport à l'espérance, c'est trouver les fondements. Parce que c'est bien de dire espère, mais sur quoi je vais me fonder pour croire à ces choses-là, hein, parce que ça ne vient pas comme ça non plus. Il y Il y en a trois qui sont dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont le fondement. Hein, ce n'est pas parce que moi je le dis qu'il faut croire. La Bible le dit au travers de ces trois personnes. D'abord, le Père nous dit qu'il est la vérité. Hein, psaume 25,5, le psalmiste dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Hein. » Dieu est un Dieu qui dit la vérité et qui est lui-même la vérité. Quand il a dit que je suis pécheur, on ne peut pas dire non, c'est vrai. Alors on n'a peut-être pas tué, mais on a eu des mauvaises pensées, on s'est disputé, on a dit des mots, et ça me sépare de Dieu, dit la Bible. Et à partir du moment où je suis séparé, je suis perdu et je suis prêt pour l'enfer, tout simplement. Mais il a dit la vérité pour que je m'en rende compte, que je prenne conscience de cela et que je demande pardon et que j'accepte Jésus-Christ dans notre vie. Heureusement qu'il a dit la vérité. Où est-ce qu'on serait aujourd'hui ? Hein, nous, on aime bien se mentir. Mais il a dit la vérité pour les choses à venir aussi, et je ne serai pas trompé. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un Dieu qui ne ment point, et il donne de l'espoir. Dans Tite 1, 2, il est dit, et Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Il ne l'a pas promis dans la Bible, il l'a promis de toute éternité déjà. Vous voyez la valeur de la promesse quelque part. Dieu ne ment pas et ça nous donne l'espoir, et surtout, comme il dit, l'espoir de la vie éternelle. La crainte de Dieu est notre soutien et sa fidélité est tout simplement notre espérance, dit Job en chapitre 4, verset 6. Donc, si j'espère, enfin si j'ai une espérance dans ces choses, ce n'est pas parce que moi j'ai envie de me convaincre par moi-même, mais c'est parce que je peux m'appuyer sur quelqu'un, et c'est Dieu, et Dieu ne ment pas, et s'il a promis quelque chose, toutes ces choses s'accompliront. L'autre espérance sur laquelle on peut se fonder, c'est Jésus-Christ. Hein. Il a offert le salut, et par ce salut, il a offert l'espoir de la vie éternelle. C'est même plus un espoir, pour nous c'est une garantie, c'est une assurance en tant que chrétien, parce qu'il a payé sur la croix, on l'a vu tout à l'heure au travers de la scène, et nous avons l'espoir qu'un jour nous partagerons avec lui la vie éternelle. C'est garanti. On l'a déjà dit, on a l'espoir de partager cette résurrection. Comme Jésus est ressuscité, il assure la nôtre de résurrection. Il nous donne l'espérance de cette gloire que ne mérite pas, on l'a dit, mais qui est bien réelle. Parce que Christ est déjà dans la gloire, et nous, il nous attend tout simplement pour partager toutes ces choses avec lui. Là encore, ce n'est pas moi qui veux me convaincre avec mon intellect, parce que vous ne pouvez pas le faire, mais c'est Dieu qui me donne, c'est Jésus-Christ qui me donne le fondement, justement, de cette espérance. Quand je vis dans ma vie chrétienne, je vois aussi des choses déjà qui se réalisent. Quand on prie, Dieu exauce des fois pas, c'est aussi un exaucement quelque part. Mais on voit déjà que notre foi, ce n'est pas quelque chose qui est seulement pour l'avenir, notre espérance n'est pas que pour l'avenir, elle est déjà mise en pratique au quotidien. Dieu prend soin de nous, c'est notre espérance, tout simplement. Puis le troisième fondement, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit en nous dès qu'on est de nouveau, et il nous permet par exemple d'appeler Dieu Père. Formidable quand on y réfléchit, on le chante, on le dit très vite, mais je peux appeler Dieu mon Père. Souvenons-nous que Dieu est parfaitement saint, que je suis pécheur, et que s'il n'y avait pas Jésus-Christ, eh ben, je serais consumé directement si je m'approchais de lui. J'osais à peine imaginer. Mais maintenant, au travers de Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire entre lui et moi, je peux m'approcher et appeler le grand Dieu Père, Papa, comme disent certains. C'est formidable quand on y pense, mon Père. Non. Déjà, on connaît ce que c'est d'avoir un papa, enfin j'espère pour ceux qui l'ont eu, mais là on a un père extraordinaire et qui nous permet d'espérer en lui. Il y a le sceau de l'esprit qui a été mis dans nos cœurs aussi, le sceau dans Éphésiens 13, 14 qui dit « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Si on a le Saint-Esprit, il nous dit, oui, quelque part, il nous dit, eh ben, tu as déjà l'assurance de la rédemption, tu as déjà l'assurance d'entrer dans le ciel. C'est une garantie tout simplement pour nous aujourd'hui. Et ça fait du bien de se souvenir et qu'il nous le rappelle de temps en temps. Nous avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire les biens à venir, cette adoption une fois pour toutes achevée avec Jésus-Christ pour l'éternité. Trois fondements qui ne manquent point. Ce n'est pas mon intellect, comme je l'ai dit, ce n'est pas ma logique qui va, sur laquelle je vais m'appuyer, mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu qui dit la vérité, parce que Dieu dit la vérité, Jésus dit la vérité, et Saint-Esprit dit aussi la vérité. Et donc, mon assise est solide, parfaite même, j'ai envie de dire. L'espérance, nous dit aussi le Nouveau Testament, est fondée sur notre régénération, c'est-à-dire notre nouvelle naissance. Hein. Quand nous naissons de nouveau, c'est-à-dire quand nous avons accepté que nous sommes pécheurs, quand nous avons demandé pardon pour nos péchés, quand nous avons accepté que nous avons besoin d'un sauveur et que Jésus-Christ est le seul sauveur et que nous saisissons la grâce, justement, nous naissons de nouveau. Et les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. Et des fois, on peut regarder en arrière en disant « Pourquoi j'ai vécu comme ça autrefois ? Pourquoi je ne voulais pas de la grâce à ce moment-là » Évidemment, il faut le comprendre. « Mais parce que je suis né de nouveau, j'étais régénéré pour une espérance vivante », nous dit 1 Pierre 1,3, « et tout a changé à notre conversion. » Autrefois, vous espériez peut-être vivre un peu plus longtemps, qu'il ne vous arrive pas un malheur, que vous ayez du boulot jusqu'à la fin de votre vie. Aujourd'hui, tout ça, on l'espère peut-être encore en tant que chrétien. La seule différence, c'est qu'on sait que Dieu est à la barre de toutes ces choses-là, et que peut-être même si on doit perdre notre boulot un moment, ben, on espère aussi dans le Seigneur. Il sait très bien de quoi on a besoin, et nous savons qu'il va agir, va nous aider. Évidemment, il faut aussi chercher du travail nous-mêmes, hein, mais il va aussi appuyer notre travail quelque part. Et donc, notre espérance a complètement changé. C'est beau d'être chrétien, en fait. C'est chouette, parce que ça change complètement l'optique de notre vie. Ça donne de l'espoir. Une nouvelle vie avec des objectifs aussi nouveaux. Hein. Notre but, c'est plus de travailler, dormir, gagner de l'argent ou je ne sais pas quoi. Ce que, on l'avait dit tout à l'heure, ce que nous attendons maintenant, c'est notre cité céleste. C'est ça qui nous presse le plus. Évidemment, il faut travailler, évidemment, il faut vivre, la Bible le dit, hein, évidemment. Mais ce n'est pas notre seul objectif dans la vie. C'est notre cité céleste, notre patrie céleste qui nous attend. Et ça, c'est notre grand but et notre joie. La véritable espérance ne perd pas son temps avec la vanité de ce monde, par exemple. Hein. Elle est satisfaite des choses qui sont vraies. Parce qu'en tant que chrétien, on peut faire maintenant le tri entre l'espérance qui est utile ou qui est vaine peut-être, et la vraie espérance, celle qui est divine. Et quand on a fait le tri, ben on perd moins son temps aussi déjà à espérer dans de fausses choses. La véritable espérance refuse la vanité. Elle s'appuie ou cherche tout simplement les vraies et belles choses de Dieu. Aussi, notre espérance n'est pas une folie. Hein. Si la croix, comme dit Paul, est une folie pour ce monde qui ne comprend pas, hein, et qui vont périr, hélas au bout, à nous, cette croix, elle nous donne tout l'espoir. Heureusement que Jésus-Christ est venu. On a fêté Noël, enfin ce monde a fêté Noël. Ils ont fêté des cadeaux et autre chose. Mais nous, on n'a pas fêté les cadeaux. On a fêté l'espoir qui est venu au travers de Jésus-Christ, enfant d'abord, mais qui a grandi et qui est allé vers la croix et qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Cette croix est une folie, mais pour nous, elle est toute notre espérance et notre joie. Notre espérance se fonde sur des réalités qui sont démontrées. Oui, on n'a pas vu le ciel, on n'a pas vu encore toutes ces choses-là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour, le Seigneur est là, à côté de nous. Et c'est ça qui nous donne notre espérance. Il nous fortifie, il nous encourage, il nous pardonne. Parce que là, on a besoin souvent de demander pardon, mais le Seigneur nous console dans notre vie. Et ça, c'est déjà aussi un fondement de notre espérance. Jésus est vivant aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il est vivant. Et le chrétien peut espérer justement être en paix, parce qu'au final, on l'a dit, il ne sera pas trompé, parce qu'il vit déjà les choses aujourd'hui. Enfin, j'espère que vous le vivez. L'espérance est fondée sur des promesses, donc, dit la Bible, des promesses qui sont divines, pas des promesses qui sont faites par des hommes, ou par notre logique, ou par la religion, ou par je ne sais pas quoi, mais par des promesses divines qui viennent de Dieu, et qui sont là justement pour consolider tout simplement notre foi. Une troisième chose qu'on apprend, c'est que espérer, ça fait du bien. N'est-ce pas ? Ah oui, ça dépend à quoi on espère, évidemment. L'espérance assure de la présence de Dieu, par exemple. Chaque jour, Dieu entend ma voix, nous dit le psalmiste et plein d'autres versets. Dieu entend ma voix. Pourquoi on ne parle pas plus souvent ? C'est curieux. Hein ? Quand on sera devant lui, certainement qu'on aura envie, on sera certainement loquace. Mais aujourd'hui, il m'entend déjà. Et pourquoi je ne discute pas plus avec lui ? Enfin, on s'entend au travers de la prière. Hein ? Autrefois, quand vous lisez la Bible, vous voyez que beaucoup d'hommes ont espéré en Dieu, ont prié, ont parlé avec Dieu. Et jamais, jamais, ils ont été déçus. Formidable. Jamais. Moi, je parle avec les hommes des fois me déçoivent. Mais Dieu m'a jamais déçu. Alors des fois, on n'est pas content, parce qu'il fait des choses que c'est pas tout à fait comme ça que j'aurais vu. Mais c'est Dieu, et donc à un moment, il faut bien que je reconnaisse que c'est lui qui a raison, que c'est pas forcément moi. Hein. Mais j'ai jamais, jamais pensé que ces moments de discussion avec Dieu, de prière, étaient vains. Dieu répond fidèlement. Hein. Psaume 38, 16, il dit « Tu répondras, Seigneur mon Dieu ». Le psalmiste savait qu'il pouvait lui parler, mais savait aussi que Dieu lui répondrait d'une manière ou d'une autre. Dieu ne répond pas toujours comme on veut, heureusement pour nous, mais il répond d'une manière ou d'une autre. Et s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il faut attendre, ou qu'il n'y a pas de réponse, et que la Lamborghini que je lui avais demandé, ben vous ne l'aurez pas, tout simplement. Mais on le sait normalement, et on ne devrait pas poser la question. Mais Dieu répond. Et ça, pour moi, enfin, dans notre foi, notre vie et notre espérance, c'est quelque chose d'essentiel de savoir que Dieu m'entend. Quel que soit l'endroit où je suis, au travail, à la maison, tout moment, Dieu m'entend. On sait aussi que Dieu tient toujours ses promesses. Hein. Le psalmiste disait « J'espère en l'Éternel, j'attends sa promesse. J'attends sa promesse. » Alors, il dit « J'attends ». On aimerait que tout tombe tout de suite, hein, mais non. Des fois, comme le psalmiste, il faut être patient. Mais le Seigneur a promis certaines choses et il les réalisera en son temps et pour notre plus grand bien. Il offre aussi la délivrance. Hein. Encore le psalmiste qui dit qu'il espère dans le bouclier, le secours de Dieu. Dieu est mon espérance quand je suis dans des situations difficiles, avec des ennemis, comme on avait vu tout à l'heure. Mais il reste ce secours, ce bouclier. Et il suffit que je le prie et que j'attende, tout simplement, qu'il m'aide. Dieu est bon pour celui qui espère en lui, nous dit Lamentation, hein, au travers de Jérémie. En tout cas, il est bon pour l'âme qui le cherche. Si je ne cherche pas Dieu, je ne vais pas me rendre compte qu'il est bon pour moi. Mais c'est celui qui cherche, qui prie, qui a toute son espérance en Dieu, qui se rend compte, justement, que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Quand vous vous levez le matin, hein, les cheveux hirsutes, regardez dans la glace, vous prenez votre café, rappelez-vous, tiens, les bontés de Dieu se renouvellent ce matin pour moi. Au lieu de penser que je dois faire du trajet, que j'ai du boulot, etc. Pensez aux choses vraies. Oui, vous vivrez toutes ces choses-là, mais ça aussi, c'est notre espérance et c'est une réalité. C'est surtout la différence. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et si vous connaissez le contexte de Jérémie, il était en pleine dépression, lui, presque. Hein, dans des situations vraiment difficiles. Alors, nous, hein, nous, peut-être qu'on apprécie plus les bontés de l'Éternel qu'on est mal, ou dans des situations difficiles. Donc, moi, je vais prier en tant que pasteur, vous soyez dans des situations difficiles, pour que vous puissiez mieux appréhender, non ? On ne va pas faire ça comme ça ? Je ne le ferai pas, ne vous inquiétez pas. Après, Dieu ne répondra pas non plus. Mais Dieu est bon pour nous. Et puis cette espérance agit sur notre quotidien parce qu'elle apaise normalement les chrétiens. Matthieu 6 nous dit de ne plus nous inquiéter pour le lendemain. Je suis comme vous. Hein. J'aime beaucoup ces textes. La pratique, elle est déjà des fois un peu plus difficile ou délicate. Mais le Seigneur nous l'a dit. Alors, est-ce que c'est ma logique à moi ? Je suis souvent astrologue parce que je sais ce qui va se passer demain, ou qui essaie de prédire les événements, hein, et qui ne se passe jamais du tout comme je l'avais prédit. Et quelque part, quand on est astrologue, on est loin de faire ce que Dieu veut, tout simplement. Ne pas s'inquiéter du lendemain, ça ne veut pas dire être fou non plus en disant « je ne prends pas les choses en avance », on est bien d'accord, mais je sais que le Seigneur m'a promis certaines choses, et donc je n'ai pas à m'inquiéter, à me rendre malade, à déprimer pour ce qui va arriver demain. Et même si la situation est difficile, le Seigneur me secourra un moment. Je l'ai vu tant de fois dans ma vie, pas toujours à la vitesse où je voudrais, et je pense que vous aussi pouvez en témoigner, mais le Seigneur nous permet d'être en paix. Et ça, ça me donne du courage. Oui, l'épreuve est là, les difficultés sont là, mais je sais que quelqu'un m'accompagne, me porte. Et ça, ça change par rapport à ce monde qui doit lutter tout seul avec ses propres forces et qui n'y arrive que très rarement, en tout cas. Mais ça m'offre du courage d'espérer en l'Éternel. Ça me fortifie et ça m'affermit tout simplement en tant que croyant. L'espérance offre aussi des armes. Ah bon ? Pourquoi il me raconte ? Ben, si j'espère en Dieu par rapport aux ennemis, comme on a vu tout à l'heure, que je n'ai pas à réagir vis-à-vis de lui, que j'ai appris la maîtrise de moi, parce que ça fait partie du fruit de l'esprit, ben, viens m'embêter. On fiche. Bon, je suis triste pour toi, on est bien d'accord que tu veuilles m'embêter. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas me pincer le cœur. Mais bon, ben, je te confie entre les mains du Seigneur. Comme j'apprends à me maîtriser, je ne vais pas te taper dessus. Tu devras dire merci au Seigneur que je ne le fasse pas. Mais bon, tu le diras plus tard. Mais quelque part, c'est une arme, cette espérance. Je sais que Dieu sait la situation. et que venger, de toute façon, ça sert à rien. Vous savez, vengez-vous une fois, vous allez voir, vous aurez toujours de l'amertume dans le cœur. Ça ne change rien. En plus, il faudra demander pardon. Alors ça, moi, je n'aime pas ces situations-là. C'est pour ça que je ne me venge pas. Mais des fois, il y a des situations où c'est vrai, c'est difficile. Mais le fait d'être chrétien, le fait d'avoir le Saint-Esprit, le fait d'avoir une vie spirituelle, nous apprend à nous maîtriser. Et quelque part, ça devient une arme. Et le fait que je sais que Dieu sait la situation et qu'il va agir selon son bon plaisir, bah, finalement, ça m'offre la paix, tranquillement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pleurer, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être triste pour ce qui m'arrive. Mais au bout, parce que vous savez, quand la vengeance commence à rentrer dans votre cœur, ça peut aller très loin. Hein. Avec Caïn, on l'a vu, il a tué. Et quand on laisse grandir ça dans notre cœur, c'est terrible, ça ravage. Mais le chrétien, lui, n'est pas ravagé par ces choses-là. Il attend et espère simplement sur Dieu. Il n'espère pas que Dieu va le venger non plus, forcément. Il espère que l'autre se convertisse, ça serait peut-être mieux. Après, Dieu fera ce qu'il veut, c'est lui qui est plus sage que nous. Le chrétien ne s'irrite pas contre les méchants, parce que Dieu est présent. Au contraire, il reste en paix, parce que Dieu veut lui offrir la paix dans ces situations parfois difficiles, parce qu'il sait que Dieu aura le dernier mot sur tous ses ennemis. Je n'ai pas un malin plaisir à me dire qu'au bout, on pourrait dire à tous ces gens qui nous ont fait du tort, une fois que Jésus viendra, on va régler toutes choses, en leur disant, mais tu vois, c'est bête quand même, t'as parlé de Jésus, t'as pas voulu écouter, et maintenant, ben, tu peux plus changer, c'est trop tard pour toi. On peut leur parler aujourd'hui, mais après, s'ils veulent pas écouter, c'est bien dommage. Mais nous, en attendant, à cause de notre espérance, on est tranquille, on est en paix. Et puis l'espérance, dit la Bible aussi, pousse à une vie sainte, pousse à la sanctification. 1 Jean 3, 2, 3 dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Si j'ai la joie, l'impatience de vouloir voir un jour Jésus-Christ, ben je dois me préparer. On est prêt en tant que chrétien, puisqu'on est né de nouveau, mais le chrétien passera devant le tribunal de Christ. Et là, on sera évalué sur le bien et le mal qu'on aura fait étant dans notre corps, notre service, notre manière de vivre, notre vie chrétienne. Toutes ces choses-là, le Seigneur les mettra devant nous. On ne sera peut-être pas très fier, hein, et il va nous évaluer et nous donnera les récompenses ou pas. Et là, certains ne l'auront pas. Mais mon espérance, la crainte de Dieu aussi peut-être, va me pousser à purifier ma vie, à changer, à me laisser transformer par le Saint-Esprit. On est assez réticents, hein. S'il fallait faire un bilan sur l'année 2018, est-ce que j'ai avancé vite? Est-ce que je me suis débattu avec Dieu? Ou je l'ai laissé faire dans ma vie spirituelle? Chacun peut répondre lui-même. Est-ce que je suis là où Dieu me voudrait aujourd'hui? Ça, c'est l'autre question, hein. Parce qu'on peut dire, ouais, je grandis, hein, cette année, ouais. Moi, je me pose la question, est-ce que je suis là où Dieu voudrait que je sois? Ça, c'est une autre question. Mais si j'espère dans Dieu, en Dieu, je veux aussi changer, me laisser transformer par le Seigneur pour créer la sainteté, pour créer la patience. Et cette patience, on en a besoin parce que parfois, on va devoir souffrir. La France va bien, mais dans notre pays, les chrétiens sont martyrisés et ont besoin d'énormément de patience. Hein. On avait pris Pierre tout à l'heure pour assise pour ce message, mais cette église était dans la persécution et il les appelle justement à être patients. Ça pousse à obéir aux commandements aussi. Hein. Dans le psaume 119, 166, il est dit « J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. » Si j'espère en Dieu, je me laisse transformer et je veux aussi obéir aux commandements du Seigneur. Mais c'est quoi les commandements du Seigneur? Ben, lisez toute la Bible, tout simplement. Il n'y a pas que les 10 commandements, hein. Tout le monde les connaît à peu près, presque. Mais des commandements, ça commence à Genèse jusqu'en Apocalypse. Il y a un tas de choses qui disent la volonté, tout simplement, de Dieu. Hein. Un commandement, c'est la volonté de Dieu pour moi. Un commandement, quand on le dit peut-être comme ça, ça nous paraît obéir. Mais un commandement, au contraire, c'est quelque chose que Dieu me propose de faire, qui est pour mon bien. Quand il dit « tu ne tueras point », c'est bien de ne pas tuer. Je n'irai pas en prison, c'est pas mal. Après, s'il me dit de ne pas me mettre en colère, c'est aussi bien, parce que je vais apprendre à me maîtriser. Finalement, le commandement, quand on l'a vraiment compris, c'est Dieu qui me dit « je veux te faire du bien ». Et nous, on dit « pouh, ça nous embête, hein ». On n'aime pas trop obéir des fois. Mais si j'ai cette espérance, je veux apprendre à obéir à ses commandements. Si j'espère en Dieu, je veux aussi agir. Et ça, ça passe par la sanctification, ça change par l'obéissance à ses commandements. Obéir à cette espérance me permet aussi d'avoir honte de rien, puisque Philippiens dit que je peux témoigner sans honte de Jésus-Christ. J'ai pas honte, il est vivant, il est vrai, mon espérance est vraie. Pourquoi j'aurais honte de Jésus-Christ ? Donc je peux parler sans peur de mon Seigneur à quiconque veut bien l'entendre. Et cette espérance me permet aussi de glorifier Christ. Parce que vous savez, quand vous espérez, quand vous mettrez votre confiance en Dieu, là-haut, il est content. Bah oui, parce que vous le croyez, parce que je le crois. Parce que je m'attends à lui. Et on veut des fois glorifier Dieu en chantant, en faisant plein de choses. Non, non. Croyez en lui simplement. Mettez votre espérance en lui. Et je crois que c'est là où Christ est le plus glorifié qu'on puisse faire. Si je crois Dieu, il est heureux. Philippiens 1:20, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul savait qu'il pourrait glorifier Dieu par son corps, par sa façon de vivre. Et dans cette façon de vivre, il savait qu'il y avait aussi cette espérance. Croyant en Dieu et Jésus est heureux, tout simplement. Et quand Jésus est heureux, nous aussi on est heureux. Finalement, hein, tout le monde est heureux, vous, c'est très bien. L'espérance du croyant tonifie. Hein, c'est pas le café le matin qui tonifie, ça fait du bien, mais il y a mieux que le café. L'espérance tonifie le croyant. Et lui donne de l'assurance en toutes circonstances, dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de difficulté. Pensez à toute cette espérance. Et là, il n'y a pas grand-chose que j'ai dit ce matin, il y a énormément de choses à dire dans la Bible, mais ça doit nous donner un peu plus de tonus chaque jour. Pour terminer, bientôt, on n'aura plus besoin d'espérer. On l'a vu, hein, un jour, nous serons face à celui en qui nous avons cru. Je me demande à quoi il ressemble. Parce qu'on a tous un peu, hein, on fait un petit portrait, il est barbu, il est, on ne sait pas. Bon, bref, mais on va le voir face à face. Ça va faire bizarre, non ? Parce que là, en espérance, on peut déjà imaginer des choses, mais quand on sera devant Jésus-Christ, bon, il nous accueillera avec beaucoup de joie et d'amour, évidemment, mais quand même, ça va faire bizarre. Hein. Mais nous verrons celui en qui nous avons cru. On va passer une centaine d'années à croire, peut-être, pour les plus âgés, mais à un moment, on va passer l'éternité en face de lui. Et ça vaut le coup, je crois, de souffrir, de passer des difficultés en tant que chrétien, ou pas. Mais en attendant, parce qu'on n'y est pas encore, hélas, on peut aborder l'année avec cette confiance, avec cette espérance que le Seigneur veut mettre tout simplement dans notre cœur. Notre espérance est basée, on l'a vu, sur beaucoup de choses, mais elle a pour objet un Dieu qui est tout puissant. On ne croit pas à un petit Dieu, un Dieu de religion ou un Dieu de philo ou je ne sais pas quoi. On croit à celui qui a créé le monde. On croit à celui qui est souverain. On croit à celui qui fait un claquement de doigts et tout est réglé. Voilà en qui je crois. Ce n'est pas mon copain ou mon ami. C'est quelqu'un d'immensément majestueux qui est capable de tout. Quelle assurance on peut avoir dans ce cas-là ? Pourquoi on se prive des fois de demander, d'espérer tout simplement ? On est bête. Mais cette espérance, oui, donc, a pour objet Dieu, un Dieu tout-puissant. Et durant cette nouvelle année, enfin, j'espère, moi, je vous propose, après, vous en faites ce que vous voulez, mais peut-être ça serait bien qu'on grandisse un peu plus dans la foi. On va faire plein de bonnes intentions au début de l'année, mais le plus grand, c'est de vouloir grandir dans la foi. C'est bon pour moi. C'est pas juste parce que je veux grandir dans la foi, mais si ma foi grandit, ma confiance en Dieu grandit, les épreuves, je les traverse d'une autre manière, et finalement, je suis heureux au bout. Hein. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que l'on grandisse en foi et en espérance. C'est pour notre bien, tout simplement. Et en même temps, que nous puissions aussi transmettre cette espérance que nous avons, ne soyons pas des égoïstes, hein, mais ce monde est sans espérance, triste à mourir. Il croit espérer dans beaucoup de choses, mais à nous qui sommes des lumières, normalement, de transmettre cette espérance. Après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais au moins, on aura fait notre travail en tant qu'ambassadeur de la réconciliation, en tant qu'ambassadeur aussi de cette espérance en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette nouvelle année pour chacun d'entre vous. Hein, on n'aime pas encore Nouvel An, mais moi, je suis déjà, tant pis. Hein. Mais surtout qu'il travaille dans notre cœur et qu'on se laisse vraiment transformer, pas pour être le top du chrétien, mais pour être simplement en paix dans notre vie, parce que c'est le projet de Jésus-Christ pour nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous rappelle toute l'espérance que tu veux placer dans notre cœur. Seigneur, nous voulons d'abord nous souvenir que ce n'est pas grâce à nous que toutes ces choses ont été accomplies, mais uniquement au travers de ton sacrifice à Golgotha. Merci Seigneur pour ta vie que tu as donnée en rançon pour ces pécheurs qui étaient loin de toi, qui ne t'aimaient pas, qui ne pensaient même pas à toi. Et toi, tu nous as aimés, Seigneur. Merci pour l'espérance vivante que tu places dans notre cœur. Oh, nous le savons intellectuellement bien souvent, Seigneur, mais apprends-nous à le vivre en pratique, à le faire grandir dans notre cœur, par des actes, par des mots, par la relation avec toi que nous pouvons avoir chaque jour, par la confiance aussi au quotidien, malgré les hauts et les bas de nos vies, mais te faire confiance, Seigneur, par des actes aussi, de ce que tu attends dans le service que nous devons avoir dans l'Église, dans notre obéissance à tes commandements. Il y a tant de choses à faire, Seigneur. Apprends-nous tout simplement à te faire plaisir, comme toi tu nous fais plaisir chaque jour. Je veux prier pour ce monde dont nous avons parlé, qui est sans espérance, peut-être nos familles, nos amis, nos frères, nos sœurs. Seigneur, tu les connais et permettre que durant cette nouvelle année, ils puissent fléchir tout simplement le genou devant toi et t'accepter. C'est là aussi notre espérance, évidemment, que beaucoup se convertissent et t'acceptent. Que ton nom soit glorifié. Merci encore pour l'année à venir avec toi, en pleine confiance. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.